Florence Paracuelos, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. À la une ce matin, les casseurs interdits de manifester, interdiction votée à l'Assemblée cette nuit, assortie de garde-fous, mais sans rassurer la gauche et l'extrême droite. Explication dans un instant. Et face aux violences des casseurs, les blessures infligées par les lanceurs de balles de défense, le Conseil d'État se prononcera d'ici demain sur leur suspension. Que demandent aussi des médecins, témoignage d'un neurochirurgien dans ce journal. Et votre invité, dans 20 minutes, Nicolas, qui bataille lui aussi contre le LBD.
Il s'agit d'Alexis Corbière, le député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis, dans le grand entretien. Appelez-nous 01 45 24 7000, le standard est ouvert.
Au menu également, Éric Zemmour comme un poisson dans l'eau chez les Républicains. Les premières fiches de paye avec impôts retenus à la source. Un reportage sur l'ancienne frontière irlandaise, point névralgique de toutes les crispations du Brexit. Des protections périodiques bio, c'est un nouveau marché. Et puis des coureurs fous qui tenteront à partir d'aujourd'hui de courir 7 marathons en 7 jours sur tous les continents.
France Inter.
Ils viennent manifester avec des boules de pétanque, des marteaux et de l'acide pour attaquer les policiers. Voilà qui sont les casseurs, disait Édouard Philippe hier soir sur France Inter. Ce sont eux qui sont visés par la proposition de loi examinée en ce moment à l'Assemblée, à 2 jours d'une 12e manifestation des Gilets jaunes. Bonjour Corinne Audouin.
Bonjour Florence.
Hier soir, les députés ont adopté un article controversé de cette proposition de loi. C'est l'interdiction administrative de manifester.
Oui, cet article, le 2e article de la loi, s'inspire directement des mesures anti-hooligan avec les interdictions administratives de stade. Ici, la loi va autoriser les préfets à interdire de manifestation par un arrêté motivé toute personne à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public. Alors comme c'est un peu flou, eh bien les députés ont obtenu des garde-fous pour interdire quelqu'un de manifester. On s'appuiera sur son casier judiciaire. La personne visée devra avoir commis des atteintes graves à l'intégrité physique des personnes, ainsi que des dommages importants aux biens ou encore un acte violent lors de manifestations précédentes. Pour s'assurer que l'interdiction est respectée, le préfet pourra demander à cette personne de venir pointer au commissariat à l'heure de la manifestation. Enfin, une interdiction de manifester sur tout le territoire pourra être prononcée pour une durée maximum d'un mois. Selon le ministre de l'Intérieur, cette mesure viserait au maximum une centaine d'individus bien connus appartenant à des groupuscules extrêmes.
Alors depuis le début, la gauche, l'extrême droite, des centristes également s'inquiètent d'une mesure liberticide. Est-ce que les critères retenus hier soir, Corinne, sont rassurants de ce point de vue-là?
Alors en fait, le souci soulevé par l'opposition de gauche, bien, c'est qu'il s'agit d'une mesure administrative, c'est-à-dire qu'elle est décidée par le préfet et non pas par un magistrat qui jugerait que l'interdiction est proportionnée au regard de la menace. Alors cette interdiction devrait être prononcée 48 heures à l'avance pour que les personnes concernées puissent faire un recours devant la justice administrative, mais c'est un contrôle a posteriori et traditionnellement dans le système français, eh bien le gardien de la liberté individuelle, c'est plutôt le juge judiciaire. Il est ici totalement écarté et c'est ce qui inquiète notamment l'opposition de gauche.
Corinne Audouin, merci. Un délit de dissimulation du visage dans les manifestations a aussi été voté, assorti d'un an de prison et de 15 000 € d'amende pour ceux qui enfreindraient la loi. Et combien de balles de défense seront encore tirées par les policiers et les gendarmes samedi? Depuis le début des manifestations de Gilets jaunes, cette arme a servi plus de 9000 fois, selon le ministère de l'Intérieur. Ces balles atteignent 100 mètres par seconde et causent des blessures irréversibles. Constatations médicales qui ont poussé 65 000 soignants à signer, eux aussi, une pétition pour demander un moratoire. C'est un neurochirurgien du CHU de Besançon qui en est à l'origine, Laurent Inès, qui a examiné de près les blessures de plusieurs patients.
J'ai vu des scanners de patients qui avaient des crânes fracassés, avec des hématomes intracrâniens, des séquelles neurologiques. Patients qui sont mis dans des comas artificiels ou qui arrivent dans un état de coma du fait des lésions cérébrales. Je trouve que c'est juste inacceptable. Donc moi, ma démarche, c'était de porter la parole un peu des soignants, parce que j'étais quand même assez surpris de voir que la communauté médicale ne s'est pas élevée contre ces violences. Nous, on demande un moratoire, c'est-à-dire l'arrêt immédiat de l'utilisation de ces armes, pour qu'on statue déjà, un, sur la dangerosité à l'issue de tous ces accidents de ces armes en France, première chose. Deuxièmement, c'est qu'on aboutisse soit à l'interdiction de ces armes pour ce qui concerne le maintien de l'ordre dans les manifestations, ou qu'on encadre de façon beaucoup plus stricte l'usage de ces armes.
Le neurochirurgien Laurent Tinès au micro de Wafia Kenich, interview à retrouver en longueur avec celle d'un autre médecin sur franceinter.fr. Et samedi dernier, la police des polices a bien relevé un tir de LBD, place de la Bastille, au moment où Jérôme Rodriguez était blessé à l'œil. Information du Parisien aujourd'hui en France, mais le policier affirme avoir touché un manifestant au ventre, ce qui va devoir être vérifié. S'il y a faute, elle sera évidemment sanctionnée, a dit Édouard Philippe sur France Inter hier soir.
Oui, le Premier ministre qui a répondu pendant plus d'une heure et demie aux questions des auditeurs d'Inter.
Plus de 2500 questions au standard, et parmi les réponses d'Édouard Philippe, on retiendra qu'il est ouvert à l'idée d'un impôt plus progressif ou d'une TVA supprimée sur certains produits. Il n'est pas non plus hostile au référendum après le grand débat, mais Yael Gauss, toutes les consultations pour lui ne se valent pas.
Un grand débat, c'est bien, mais on en sort comment ? Édouard Philippe ouvre, entr'ouvre et ferme des portes, toujours aussi allergique au RIC, RIC, le référendum d'initiative citoyenne d'inspiration suisse réclamé par les Gilets jaunes.
Je l'ai dit dans une formule qui a parfois fait sourire, le RIC, ça me hérisse. Je ne crois pas que dans notre démocratie, on ait intérêt à pouvoir organiser à n'importe quel moment des référendums sur tout.
Le RIC, non, mais un nouveau RIP, oui, RIP pour référendum d'initiative partagée, instauré en 2008 par Nicolas Sarkozy dans sa révision de la Constitution. Aujourd'hui inappliqué et quasiment inapplicable, tant les seuils pour le déclencher sont élevés, au moins 4,5 millions d'électeurs et 185 parlementaires.
Je ne serais pas opposé à l'idée qu'on se pose la question de savoir si on diminue le nombre de signataires, de pétitionnaires, pour faire en sorte que la question soit posée. Mais je suis assez ouvert à l'idée.
Et puis il y a le référendum classique, article 11, prérogative du président. Pourquoi ne pas faire trancher les avancées du grand débat par le peuple ? La réforme des institutions, par exemple, le Premier ministre laisse clairement la porte ouverte.
Peut-être qu'il en faudra un sur quelques questions, mais je pense que ça ne peut pas être le seul point de sortie.
Une sortie par référendum que certains marcheurs rêvent d'organiser le même jour que les européennes, le 26 mai, couplé aux élections. Au ministère de l'Intérieur, le scénario est sérieusement étudié et tout est prêt si Emmanuel Macron le décide pour le 26 mai ou une date ultérieure.
Édouard Philippe qui s'interroge également, et ça n'est pas la première fois, sur la pertinence du non-cumul entre un mandat de maire d'une petite commune et un mandat de député ou de sénateur.
Il est 8h07, pendant ce temps-là, à droite, Laurent Wauquiez creuse son sillon.
Sillon conservateur sur le plan des valeurs, incarné par François-Xavier Bellamy, choisi pour diriger la liste LR aux européennes, et par cette conférence organisée hier au siège du parti, avec le très droitier Éric Zemmour comme invité, l'essayiste dans son élément, avec Laurent Wauquiez, Élodie Forêt.
Éric Zemmour, comme à la maison hier chez les LR.
Éric est ici chez lui.
L'essayiste croule sous les louanges des militants.
Pour moi, c'est un homme engagé, courageux, qui a le courage de dire que ce que beaucoup de gens pensent, mais n'ont pas le courage de dire.
Comme du patron du parti qui accueille pour la première fois en personne un invité de ce rendez-vous des idées. Rien d'anodin à ça, avec Éric Zemmour et ses marottes.
Les victimes, c'est toujours les mêmes. Hein. C'est les vaincus, ce sont les femmes, ce sont les colonisés. Et la France, c'est pas partie des victimes, elle fait partie des bourreaux.
Laurent Wauquiez appuie sa stratégie, misée sur le noyau dur, la droite catholique et conservatrice, pour reconstruire le parti.
Pourquoi est-ce que quelqu'un comme Éric est précieux ? Et pourquoi est-ce que quelqu'un comme Bellamy est précieux ? Parce que ce sont des gens qui nous permettent de voir ce qui se passe et d'essayer de le comprendre. Le choix qu'on a fait aux européennes, c'est le choix d'affirmer ce que nous sommes et de dire clairement, vous ne nous dictez pas les choix qu'on a à faire.
Les militants et élus présents refusent, eux, d'y voir un rétrécissement, prenant comme preuve d'ouverture et non comme alibi la présence de deux figures plus centristes du parti en tête de liste pour les européennes.
Et ces deux figures, Agnès Evren et Arnaud Danjean, s'afficheront demain à Belfort avec François-Xavier Bellamy et Laurent Wauquiez, qui entament une série de déplacements pour avoir, dit-il, un vrai dialogue avec les Français. Nous n'aurons sans doute jamais autant scruté notre feuille de paye qu'en ce mois de janvier. Une ligne nette à payer avant impôt sur le revenu, une ligne prélèvement à la source et le montant final du virement, 14 000 de salariés concernés par cette toute première fiche de paye sur laquelle le fisc prélève sa dîme. Et voilà ce que ça donne dans une PME de la Défense. Reportage signé Hélène Philly.
Les bulletins de salaire sont arrivés hier à Vidéo Future dans les mains de salariés vigilants.
Moi, je fais jamais confiance. J'ai fait les calculs et ils ont fait du bon travail.
Stanislas Norloff, chef de produit, trouve même que le système gagne en clarté.
Il n'y aura plus cette phase d'attente, mais pas d'appréhension, mais en tout cas, on va scruter précisément ce qui va tomber de la part des impôts et recouper avec nos fiches, là, ça va être plus simple.
Il y avait un peu plus d'inquiétude pour Marianne Barrière.
J'avais un peu d'appréhension, mais c'est vrai qu'on a eu plusieurs mois de simulation et ça a été plutôt rassurant. À 1 ou 2 euros près, c'était quasiment la même chose.
Une simulation sur les payes des 3 derniers mois qui a sûrement facilité les choses, juge le patron Mathias Hautefort.
On a l'habitude de faire ce qu'on appelle des alpha-tests ou des bêta-tests. Donc on a fait là, comme pour tout le reste, c'est intéressant pour chacun de comprendre comment ça fonctionne. Enfin, moi le premier, hein. Je suis chef d'entreprise, mais je paye aussi des impôts naturellement, donc je voulais comprendre ce qu'il en était. Et je pense que c'est la meilleure manière de contrôler pour chacun si ça fonctionnait bien.
Quelques difficultés sont encore possibles, pointe l'expert comptable Emmanuel Guetz.
Notamment lorsqu'il y a des salariés qui sont intégrés à l'entreprise en cours de mois. La récupération d'informations auprès de l'administration peut prendre un peu de temps et donc arriver en fin de mois, il faut bien produire un bulletin, et donc dans ce cas-là, c'est le taux neutre et non pas le taux individualisé auquel peut s'attendre le salarié.
Jusqu'ici en tout cas, aucune mauvaise surprise n'est à déplorer.
Renault, Nissan et Mitsubishi sont dans un bateau, réunis pendant 2 jours à Amsterdam. Première réunion des dirigeants de l'Alliance depuis l'arrestation de Carlos Ghosn avec ses successeurs à la tête de Renault. Bataille d'influence en perspective sur le poids de Nissan face à Renault.
8h11, cap sur la frontière irlandaise maintenant.
Épicentre d'un Brexit bloqué entre Londres et Bruxelles, cette ligne invisible aujourd'hui deviendra une des frontières extérieures de l'Europe en cas de Brexit sans accord. Et c'est la crainte de tous ceux qui vivent dans le souvenir de 30 ans de guerre civile. Envoyé spécial sur cette peut-être future ex-ligne de démarcation, Eric Biegala.
Pour le moment, sur les routes irlandaises, on passe du Royaume-Uni en République d'Irlande sans pratiquement s'en apercevoir. Depuis la cuisine de Betty Meehan, dans le comté de Monaghan, en République d'Irlande, on distingue, au bout de la route enneigée, quelques arbres et une vague bâtisse au loin. C'est le début de l'Irlande du Nord. La limite entre les deux Irlandes est invisible.
Elle est invisible aujourd'hui, mais avant elle ne l'était pas. D'ici, on voyait un grand mirador militaire. En fait, je crains vraiment qu'on se retrouve avec une frontière matérielle, avec douane et tout le chambard, comme avant.
Disruption. Pour Jane Morris, qui a participé à la rédaction des accords de paix entre les deux communautés en 98, c'est bel et bien le vote pour ou contre le Brexit il y a 2 ans qui a d'une certaine manière rallumé le feu de la division.
Le Brexit, ça a servi de rediviser les gens. Les Irlandais nationalistes, ils voulaient rester avec l'Europe. Et les unionistes voulaient partir de l'Europe.
Reste que les Nord-Irlandais disposent pourtant d'une manière très simple de s'affranchir d'une possible future frontière sur leur île, c'est de demander la nationalité irlandaise. Les accords de paix leur en donnent le droit, et en 2018, 85 000 citoyens britanniques d'Irlande du Nord ont ainsi fait une demande de passeport irlandais, c'est-à-dire de passeport européen. Belfast, Eric Biegala, France Inter.
L'homme qui a tué une personne et en a blessé 5 autres dans une rue de Bastia hier après-midi a été retrouvé mort par le raid dans son immeuble cette nuit. C'est une histoire de chien qui aurait motivé ses attaques au cutter et à l'arme à feu, un vieux contentieux avec des voisins au sujet d'une morsure selon la procureure de Bastia. L'heure du verdict au procès du viol du quai des Orfèvres. Hier, l'avocat général de la cour d'assises de Paris a requis 7 ans de prison contre les 2 policiers accusés par une touriste canadienne et qui ont nié les faits de viol pendant les 2 semaines et demie d'audience. Voilà des attributs dont les femmes se passeraient bien, d'autant qu'on réalise depuis quelques années que les serviettes et les tampons hygiéniques recèlent des substances cancérigènes et des perturbateurs endocriniens. Pour les couches culottes des bébés, le gouvernement a pris la mesure du danger en sommant leurs fabricants de modifier leur composition, mais rien de tel pour l'instant pour les protections périodiques, ce qui ouvre les portes d'un nouveau marché en plein développement, Véronique Julia. Celui des protections bio.
Au cours d'une vie, une femme va utiliser 10 à 15 000 tampons ou serviettes. Des résidus de pesticides, du chlore pour rendre le produit plus blanc. C'est en lisant l'inventaire de ce qu'on peut retrouver dans un tampon conventionnel que Gaëlle Lenoane, fondatrice de Marguerite et compagnie, a décidé de commercialiser il y a quelques mois des tampons bio qu'elle envoie par courrier.
Moi, clairement, j'étais révoltée quand les études sont parues en 2017. Je me suis sentie trahie par une marque que je mettais depuis l'âge de mes 12 ans, de mes premières règles. Je me suis dit, il faut rendre ces tampons simples. Il n'y a vraiment que du coton, aucun intrant chimique lors du processus de fabrication. C'est blanchi par une méthode d'oxygénation, donc pas au chlore. Les tampons avec applicateur, c'est un applicateur en carton, donc biodégradable aussi.
Un produit plus sain, avec un impact limité pour l'environnement. C'est aussi le défi que s'est lancé il y a 10 mois Fanny Abbès, cofondatrice des culottes Fempo. Ici, pas de tampons ni de serviettes, c'est un slip absorbant et lavable.
À l'intérieur de la culotte, on a un tissu qui est fait de bambou, beaucoup plus absorbant naturellement que le coton. La culotte
culotte se porte toute la journée et ensuite elle passe à la machine à laver. C'est la durée de vie d'une culotte normale.
Une alternative qui marque des points. Fanny double son chiffre d'affaires tous les mois. Mais attention, plus écolo sans doute, le bio ne protège pas des chocs toxiques. Éviter les infections requiert les mêmes règles d'hygiène qu'avec des protections traditionnelles.
Véronique Julia, une finale Strasbourg-Guingamp en Coupe de la Ligue. Ce sera le 30 mars prochain. Hier soir, les Strasbourgeois, double vainqueurs de cette coupe, l'ont emporté 3-2 face à Bordeaux. Enfin, sont-ils humains, ces coureurs qui vont participer à partir d'aujourd'hui à un pari qui défie l'entendement. 7 marathons en 7 jours sur tous les continents. Ils sont une cinquantaine au départ de la première course aujourd'hui en Antarctique, avant d'enchaîner en Afrique du Sud, en Australie, à Dubaï, en Espagne, au Chili et aux États-Unis. Parmi ces fous furieux, Jérôme Val a rencontré la Française Stéphanie Jiquel, suivie par les chercheurs de l'INSEP avant son départ.
Je vais courir 7 marathons en 7 jours consécutifs.
Rien que l'énoncé donne le vertige. 7 marathons, plus des heures et des heures d'avion pour rallier les différents sites et tout ça en une semaine. Mais pas de quoi effrayer Stéphanie Jiquel.
La distance de 195 km en 7 jours, je fais déjà beaucoup de kilométrage toutes les semaines. Sur des compétitions d'ultra-trail, je pars souvent sur 200 km. Sur des GR, je pars sur 200-300 km sur plusieurs jours. C'est pas ça qui me fait peur.
Alors la peur d'où vient-elle? Eh bien justement du format inédit de cette épreuve. Changer de lieu et de continent tous les jours, changer de conditions aussi, du froid, du chaud, d'où une préparation spécifique.
Je suis dans une chambre thermique qui est actuellement à 37 degrés. L'objectif, c'est de s'acclimater au chaud, habituer mon corps à courir par ces températures.
C'est parti. Donc échauffement, une dizaine de minutes.
La silhouette fine de Stéphanie Jiquel a été suivie de près à l'INSEP.
On prend l'allure de marathon ?
Franck Brocherie est chercheur à l'Institut. Il s'intéresse de près à ce stress lié aux changements brutaux de conditions.
L'utilisation du stress environnemental maintenant est relativement courant en fait dans la préparation des athlètes. Donc nous, pour préparer par exemple les Jeux de Tokyo, on va utiliser la chaleur.
Nous ne sommes pas des fous, répète Stéphanie Jiquel, consciente quand même que cette épreuve est un peu dingue.
Oui, ça a l'air difficile, effectivement, Nicolas Demorand.
Merci. Je vous le confirme. Oui. Pour vous aussi, hein, Florence. Merci Florence Paracuelos.